Vous êtes avec SBS French.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur radio SBS. Christophe Mallet et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner au cours de cette heure. Nous parlerons aujourd'hui, comme chaque jeudi, du sport. Nous aurons notre retour vers l'économie et nous ferons une page spéciale sur les retrouvailles de la petite Cléo avec notre correspondant à Perth. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et on débute avec les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le torchon brûle encore un peu plus entre l'Australie et la France sur fond de polémiques et d'échanges de mots cinglants entre les deux pays. Et la petite Cléo, je vous le disais, a été retrouvée saine et sauve hier, non loin de son domicile, 18 jours après sa disparition. Début de ce journal, bien entendu, avec la crise diplomatique entre la France et l'Australie. Scott Morrison a été accusé d'avoir vandalisé la réputation internationale de l'Australie à cause de sa gestion de la décision pour mettre la fin au contrat des sous-marins français, contrat qui valait 90 milliards de dollars. Je vous le rappelle, la porte-parole du Parti travailliste pour les affaires étrangères, Penny Wong, a condamné la fuite du texte du SMS entre le Premier ministre Scott Morrison et le président français Emmanuel Macron au sujet de l'accord. Scott Morrison n'a pas nié que son bureau avait divulgué le texte du président français, mais Scott Morrison a également nié d'avoir induit le français ou les français en erreur. L'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, a qualifié le dumping du contrat de 2016, donc des navires de classe attaque, de coups de couteau dans le dos. On l'écoute.
You don't behave like this on personal exchanges of leaders who are allies. But doing so also sends a very worrying signal for all heads of states. Beware. In Australia, there will be leaks. And what you say in confidence to your partners will be eventually used and weaponized against you one day.
Voilà donc l'ambassadeur de France en Australie, affaire à suivre. La petite Cléo, qui avait disparu il y a près de 3 semaines, a été retrouvée vivante et en bonne santé mercredi matin dans une propriété de Carnarvon, à quelques minutes de la maison familiale. Un homme de 36 ans de la ville de Carnarvon a été arrêté et est interrogé sur l'enlèvement présumé. La police de Western Australia a déclaré qu'il restait encore beaucoup de travail à faire après donc que la petite Cléo ait été retrouvée. Le ministre pour la police de WA, Paul Papapila, a déclaré que c'était le bon travail de sa police qui avait trouvé la petite fille. Il s'attend à ce que des accusations soient portées aujourd'hui. On l'écoute.
It was just a hard police grind. There were a huge number of officers involved in this task force, more than 140. They sifted through all manner of information, and some analysts in Perth in particular brought together a few different elements of their investigation and ended up with this result.
C'était donc le ministre pour la police du WA, Paul Papalia. Une décision quant à savoir si les jeunes enfants en Australie pourraient recevoir le vaccin contre le Covid pourrait être imminente après que les régulateurs américains aient approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Le Center for Disease Control des États-Unis soutient que le vaccin Pfizer donc est capable de vaincre le Covid pour le groupe d'âge, ce qui pourrait permettre de distribuer des vaccins à environ 28 millions d'enfants dès cette semaine aux États-Unis. L'Australie n'a pas encore approuvé un vaccin pour les enfants donc des 5-11 ans, mais les autorités sanitaires ont précédemment indiqué qu'elles surveilleraient avec précision les autorités américaines. Le président américain Joe Biden a déclaré que les enfants étaient également vulnérables aux effets du Covid. On l'écoute.
Children make up one quarter of the cases in this country. And while rare, children can get very sick from COVID-19. And some can end up, few, but end up hospitalized. But they don't have to. This vaccine is safe and effective. So get your children vaccinated to protect themselves, to protect others, and to stop the spread, and to help us beat this pandemic.
Et c'était le président américain Joe Biden. En France et en Europe, on se pose également la question de la vaccination pour les petits de 5 à 11 ans. Élément de réponse avec le docteur Jérôme Marty de l'Institut sanitaire français.
Ça arrivera. Maintenant, nous, on n'a pas encore eu véritablement les autorisations, on n'a pas encore les rendus des laboratoires sur la partie européenne et donc française. Donc, ça va prendre encore quelques mois. Et en tant que médecin, on préfère mettre la priorité sur les populations cibles qui n'ont pas encore été vaccinées ou qui n'ont pas encore fait leur troisième dose. L'urgence, elle est là, c'est-à-dire les populations qui sont très à risque de cette pathologie.
Ça voudrait dire que les enfants seraient moins à risque, enfin moins vulnérables ?
Il faut tenir compte de deux choses. D'une part, ils sont effectivement moins à risque de symptômes graves de cette pathologie, qui a tendance à moins les toucher. Ceci dit, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui développent des formes asymptomatiques, donc qui passent sous le radar. Par contre, on note un certain nombre de Covid longs chez les enfants, et on est en train de faire des recherches sur les Covid longs, et on s'aperçoit que dans certains cas, les Covid longs peuvent produire des effets neurologiques. Il faut qu'on tienne compte de ces Covid longs et donc que l'on évite le plus possible que le virus circule pour avoir le moins possible de Covid longs.
Et c'était le docteur Jérôme Marty de l'Institut sanitaire français. Un biologiste et un virologue qui a joué un rôle vraiment transformateur dans la réponse scientifique mondiale contre le Covid-19, a remporté le prix du premier ministre de la science pour la science cette année. Le professeur Edward Holmes de l'Université de Sydney a reçu le prix de $250,000 pour près de 30 ans de recherche pionnière sur les données de séquençage du génome et sur les maladies telles que le sida, le VIH, l'Ebola, le SRAS ou encore plus récemment le Covid-19. L'année dernière, le professeur Holmes a été la première personne au monde à partager publiquement la séquence du génome du virus Covid-19 avec les données cruciales permettant aux scientifiques de commencer la conception d'un vaccin en juste quelques jours. Le professeur Holmes a déclaré sur ABC que le Covid avait été traumatisant pour tout le monde et avec la détection précoce de toutes les épidémies clés pour contrôler une nouvelle pandémie à l'avenir, c'est la clé de son travail. On l'écoute.
I think most of all, we need a kind of global radar system, which every country takes part in. So if we see something strange, like an outbreak of cases in people working in markets or in animals that live close to humans, then we can act much more quickly, tell each other, share data, and just the whole world just kind of work in a much more unified and rapid manner to stop it.
Voilà, donc pour le Covid. D'ailleurs, toujours sur le Covid, d'après l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de cas de coronavirus a augmenté en Europe pour la 5e semaine consécutive, ce qui en fait la seule région du monde où le Covid-19 continue d'augmenter. L'Agence de santé des Nations Unies affirme que le nouveau cas a bondi de 6% en Europe contre une augmentation de 18% la semaine précédente. Heather Popovic, spécialiste de la gestion des urgences, affirme que la Roumanie a désormais l'un des pires taux de mortalité donc par le Covid-19 en Union européenne. On l'écoute.
We just visited a hospital, the emergency department full of patients, full of COVID. It was pretty dramatic. And that would put this at a very high level. The numbers of cases are high. I know the numbers of deaths just reached a all-time high.
13h08, direction la France maintenant, et le procès des attaques du 13 novembre qui continue en France, à Paris. Hier, à la barre, parmi les 14 accusés, il y avait l'homme accusé d'être allé chercher le terroriste présumé Salah Abdeslam, Laura Martel.
Tout au long de son interrogatoire, l'émotion d'Hamza Atou est palpable. Les larmes coulent dès les premières questions et l'évocation de son père et son frère décédés. Elle lui serre la gorge lorsqu'il glisse une pensée pour les familles de victimes et affleure à nouveau quand il exprime de nombreux regrets, à commencer par cette vie qui déraille. Après une bonne enfance, chouchouté au sein d'une famille de 8 et un début de scolarité réussi, il est rattrapé, dit-il, par la réalité de la vie au collège. C'est de sa consommation de cannabis dont il parle, jusqu'à 5 grammes par jour. Les 50 euros qu'il gagne le week-end sur les marchés ne suffisent pas à financer son addiction. Je ne me voyais pas voler ou agresser des gens, dit-il. Alors il a tiré dans un bar près de chez lui. D'abord serveur au noir, il devient vite dealer pour le patron, un certain Brahim Abdeslam, futur kamikaze des terrasses. Dans ce café, il croise aussi d'autres accusés du procès, devient notamment ami avec le petit frère de Brahim, Salah Abdeslam, qui lui demandera de venir le chercher à Paris le soir des attentats. Arrêté le lendemain, il passe 2 ans et demi en détention avant d'être libéré sous contrôle judiciaire, mais des virées nocturnes alcoolisées manquent de le renvoyer derrière les barreaux. Dans ma vie, souvent j'agis et après je réfléchis. C'est pour ça aussi que je me retrouve ici, déplore-t-il. Vos proches vous décrivent naïf, généreux, toujours serviable. Vous vous reconnaissez, renchérit son avocate. Malheureusement oui, et ça ne m'a pas porté chance, mais aujourd'hui je saurais dire non, assure-t-il.
Et c'était Laura Martel pour RFI. Direction la COP26 maintenant. Les activistes climatiques aborigènes et insulaires du détroit de Torres donc, se sont rendus à cette COP26 et ils appellent à une grande implication donc, par les politiques australiens et sur le changement climatique. Plusieurs dirigeants autochtones se sont donc rendus à Glasgow pour s'assurer eh bien, que leur voix était entendue. Le docteur Virginia Marshall, qui est chercheuse à l'Université nationale australienne, est une des voix de premier plan sur la façon dont le changement climatique affecte les communautés autochtones. Eh bien, on l'écoute, elle nous dit qu'il est important que les voix autochtones soient entendues.
The way that we read the land and the water and what's happening through all of the animals and the flowers, etc., that's been changed because of climate. And we need to really say to governments around the world, if you listen to Indigenous peoples, we can work together with our fire management practices, with our understanding of the land and waters.
13h11 en économie maintenant, la bourse de Paris et son indice, le CAC 40, eh bien, atteint des records. L'indice n'a pas été aussi haut depuis 21 ans, le 4 septembre 2000. Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC, nous explique pourquoi.
Oui, alors c'est vrai que ça peut paraître excessif de la part des marchés actions, mais il faut bien comprendre qu'on est aussi dans un environnement de taux bas pour le moment, hein, même si on a des craintes inflationnistes pour l'instant, on est quand même sur des niveaux de taux assez bas. On est aussi sur des perspectives économiques qui restent quand même assez positives, hein, parce que même si on a eu cet effet Covid qui a gelé une partie de l'économie depuis, on est reparti beaucoup plus vite qu'anticipé, et on sait que les États sont toujours là, et les États vont faire des plans de relance, vont soutenir l'activité encore l'année prochaine, et donc les perspectives de résultats des entreprises restent encore assez positives pour le moment. Alors on a toujours des craintes, on a toujours des facteurs de risque, mais aujourd'hui c'est vrai que lorsque vous avez le choix entre mettre votre argent sur le livret A ou investir en bourse, bah on va se dire qu'il y a encore du potentiel au niveau du marché action. Donc c'est vrai que le marché action reste soutenu surtout par ces éléments de perspective et cet environnement de taux très bas, et puis derrière quand même des États et des banquiers centraux qui font tout pour soutenir la conjoncture, qui font tout pour soutenir l'économie. Et ça, ça rassure beaucoup sur les perspectives économiques.
Et c'était Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel BGC. On reste sur l'économie, c'est jeudi, et c'est une accusation à 2 milliards d'euros. Le groupe maritime français CGM entre de plein pied dans le marché américain en achetant eh bien, tout simplement un terminal du port de Los Angeles. Alexis Bédu.
Le Phoenix Marine Services est le troisième plus grand terminal des ports de Los Angeles, un des plus importants d'Amérique du Nord. Il s'agit d'une infrastructure clé, rappelle le PDG du groupe Rodolphe Saadé. Elle devrait renforcer la position et soutenir la croissance de CMA-CGM. Le groupe a profité de l'explosion des coûts du transport maritime, dopé par la consommation des ménages pendant la pandémie. Alors comme le dit un expert, il faut moderniser les terminaux, et l'avantage c'est qu'en ce moment il y a du cash pour investir. Car la stratégie principale des armateurs, c'est d'avoir de bonnes positions dans les ports. Ceux de Californie, Long Beach et Los Angeles représentent 40% du total des importations américaines. Mais ils ont un gros inconvénient, ils sont trop petits. Cela saute aux yeux depuis plusieurs mois avec d'énormes blocages logistiques. Les embouteillages de porte-conteneurs devant les ports ne sont d'ailleurs pas encore résorbés. Une des ambitions de CMA-CGM pourrait bien être de moderniser et de mettre au niveau les ports américains qui ont un peu stagné ces 20 dernières années.
Alexis Bédu, allez, coup d'œil météo pour aujourd'hui en ce 4 novembre à travers le pays. À Perth, il fera 24 degrés. Adélaïde, 25. Melbourne, 19. Hobart, 19. Canberra, 18 degrés. Sydney, il fera 24. Brisbane, 25. Cairns, 31 degrés. Et Darwin, il fait chaud à Darwin, toujours 36 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Le torchon brûle encore un peu plus entre l'Australie et la France sur fond de polémiques et d'échanges de mots cinglants entre les deux pays. La petite Cléo, qui a été retrouvée saine et sauve hier non loin de son domicile 18 jours après sa disparition. D'ailleurs, restez à l'antenne, nous avons un reportage avec notre spécialiste et notre correspondant à Perth tout de suite après cette émission. Voilà, c'est tout pour ce journal pour aujourd'hui. Courte pause et on retrouve Jean-Noël pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis à Paris-Bercy, le bel exploit du français Hugo Gaston hier contre Pablo Carreño Busta, l'espagnol. Éric Mamrut sur place pour Radio France Internationale.
Hugo Gaston qui a mis le feu à l'aréna de Bercy, le Toulousain de 21 ans s'est offert le scalp de l'espagnol Pablo Carreño Busta, 17e joueur mondial, le score 6-7, 6-4, 7-5 pour Hugo Gaston qui nous refait le coup de Roland-Garros 2020 lorsqu'alors totalement inconnu, il avait créé la sensation en se hissant en 8e de finale, battant notamment le Suisse Stan Wawrinka et en malmenant l'Autrichien 3e mondial Dominic Thiem. Hugo Gaston qui sait faire déjouer ses adversaires grâce à son jeu très atypique, de variations avec beaucoup d'amortis notamment. Le voilà donc en huitième de finale ici à Bercy pour la première fois de sa carrière. Et après cet extrait des qualifications, c'était tout à l'heure son 4e match consécutif, 4e victoire d'affilée et en 3-7 à chaque fois. Là, d'ailleurs, le dos qui tiraille un petit peu, à voir s'il aura récupéré demain pour défier un joueur plus jeune que lui, Carlos Alcaraz, 18 ans. Gaston est d'ores et déjà assuré d'entrer pour la première fois de sa carrière dans le top 100 mondial.
Et ça passe pour Monfils contre Manarino, son compatriote en 3 manches, 2-6, 7-6, 6-2. Gaël Monfils va maintenant rencontrer Novak Djokovic, le Serbe, au prochain tour. Le Serbe qui a gagné 17 fois contre Monfils qui n'a jamais battu le Serbe. Et puis ça passe pour deux Australiens, Duckworth qui a sorti Musetti, l'Italien, et Popirin qui a battu Tsitsipas qui a déclaré forfait. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que les deux Australiens joueront l'un contre l'autre ce jeudi soir. Chez les dames, la Billie Jean Cup, autrefois on l'appelait la Fed Cup, c'est à Prague en ce moment. Et la France, tenante du titre, éliminée déjà, Sofiane Namazian, RFI.
Les tenantes du titre au tapis, la France avait remporté la dernière Fed Cup de l'histoire en 2019. Donc pas de doublé pour l'équipe de Julien Beneteau, battue lundi par le Canada. La France devait remporter ses 3 matchs face à la Russie pour espérer continuer l'aventure. Clara Burel avait réalisé l'exploit face à Ekaterina Alexandrova, 32e mondiale. Mais Alizé Cornet s'est inclinée lors du second match en 3 manches contre Anastasia Pavlyuchenkova.
On passe au foot, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Leipzig ont fait match nul hier, 2 buts partout. Thomas de Saint-Léger, Radio France Internationale.
À l'heure où je vous parle, ce sont les joueurs allemands qui font la fête avec leur public et pourtant ils n'ont pas gagné ce soir, les joueurs de Leipzig. Ils ont simplement évité une 4e défaite en 4 matchs cette saison de Ligue des Champions, évité in extremis un penalty inscrit dans les dernières minutes dans les arrêts de jeu par le Hongrois Dominik Szoboszlai sur une action un petit peu litigieuse qui a dû être vérifiée à la vidéo. L'arbitre monsieur Ekberg a finalement indiqué le point de penalty et c'est ainsi que le Paris Saint-Germain concède ce match nul, un match nul toutefois logique au vu de l'ensemble de cette rencontre, une rencontre entamée pied au plancher par les Allemands qui ont ouvert le score à la 8e minute, qui ont obtenu un penalty qu'ils l'ont manqué quasiment dans la foulée. Wijnaldum a égalisé pour les Parisiens vers la 20e minute et juste avant la pause, c'est encore lui le Néerlandais qui a permis à son équipe de prendre à ce moment-là l'avantage, même si donc on se quitte bons amis ce soir entre Parisiens et Allemands de partout. Paris qui fait une opération on va dire moyenne dans l'optique de la première place du groupe puisque Manchester City s'est imposé dans son match contre Bruges. Les Parisiens sont en bonne voie pour la qualification, pour la première place. Ça sera compliqué, va falloir aller la gagner sur les terres des Citizens.
Autre résultat d'hier, maintenant avec Sarah Loubacouche, Martin Guez et Patrick Julia de Radio Foot International.
C'est Liverpool qui a gagné 2-0 sur ses terres et l'Ajax qui allait s'imposer 3-1 face à Dortmund. Un Liverpool qui a gagné face à l'Atlético de Madrid. Manchester City de son côté n'est pas qualifié mais a quand même triomphé 4-1 face à Bruges. Le shérif Tiraspol n'a pas réussi lui face à l'Inter. 3-1 pour les Milanais. Et puis le Sporting, le club lisboète qui s'est imposé à domicile 4-0 face au Beşiktaş, Martin.
Ouais, ils ont cartonné pour qui ça s'est plutôt bien passé aussi, c'est le Real Madrid un petit peu plus tôt, qui ils ont gagné 2-1, puis un partout entre Milan et Porto. On l'avait pas mentionné, le troisième but de l'Ajax finalement, c'est celui de Klaassen. Qu'est-ce qu'on retient très rapidement, Patrick Julliard? Il y a eu des beaux matchs, celui qu'on a suivi, le but d'Allaire aussi qui décidément
c'est un but important puisqu'il signe la qualification de l'Ajax. C'est un peu le match qu'on attendait le plus parce qu'il pouvait y avoir un qualifié. Sur le PSG, on n'a pas vraiment avancé ce soir. On reste sur l'impression que de flou et de manque de maîtrise que nous fait cette équipe depuis le début de la saison. Et on n'a pas progressé. Et Pochettino non plus.
Mardi, Lille a battu Séville 2-1 et se relance dans cette Ligue des Champions, comme nous l'explique Christophe Diremzian pour RFI.
C'était d'autant moins attendu que le club andalou était invaincu à domicile cette saison, toute compétition confondue, et que les nordistes avaient encaissé un but dès la fin du premier quart d'heure. Mais ils ont réussi à inverser la tendance grâce à un pénalty de Jonathan David juste avant la pause et un but de Jonathan Ikoné juste après. L'international français est l'homme d'un match qui comptera beaucoup pour son équipe.
On avait besoin d'un match référence pour pouvoir être bien et on doit le garder à l'esprit. Maintenant, on a réussi à faire ça et faut continuer sur cette lancée. On est très content et maintenant, faut pas s'arrêter là. On a tout donné pour être à cette deuxième place et faut continuer à se donner les moyens pour pouvoir se qualifier. On sait qu'on est une équipe, on doit se donner à fond tout le temps pour pouvoir espérer quelque chose. Donc on va essayer de reproduire ça et gagner les autres matchs.
Des propos recueillis par Cédric De Oliveira. Lille effectivement deuxième du groupe G derrière les Allemands de Wolfsburg, également vainqueur des Autrichiens de Salzbourg 2-1. Le Bayern Munich lui s'est qualifié pour les huitièmes sans faire de sentiments face au Benfica Lisbonne, battu 5-2 avec un triplé de Robert Lewandowski. Deuxième du groupe, le FC Barcelone qui l'emporte difficilement 1-0 sur le terrain du Dynamo Kiev. Également en huitièmes, la Juventus Turin, tombeur du Zénith Saint-Pétersbourg 4-2. Les Italiens devancent Chelsea, vainqueur 1-0 à Malmö. Autre doublé salvateur, celui de Cristiano Ronaldo avec Manchester United qui accroche un nul de partout à l'Atalanta Bergame. Les Red Devils sont leaders de leur groupe devant Villarreal, victorieux des Young Boys de Berne 2-0.
Samedi dernier, Diego Maradona aurait fêté ses 61 ans s'il était encore en vie. Écoutez ce reportage de Georges Querino à Buenos Aires pour RFI.
La musique qui accompagnait l'un des échauffements les plus mythiques du PIB des Euros résonne dans les travées du stade. Plus de 5000 personnes sont venues ce samedi soir fêter l'anniversaire de Pelusa, le surnom de ce gamin chevelu qui avait débuté sa carrière ici en 1976. Une fierté pour ce quartier populaire situé à l'ouest de la capitale. Pour Matteo, 29 ans, il fallait célébrer l'enfant chéri ce 30 octobre.
Il faut toujours le fêter, particulièrement en Argentine et pour le quartier de la Paternale. La naissance de Diego, c'est comme Noël. Il n'y a pas beaucoup d'explications.
Ici, c'est la terre de Dieu, indique l'une des nombreuses peintures murales représentant l'ancien numéro 10 autour du stade Diego Armando Maradona. Pour lui rendre hommage, le club a organisé une rencontre entre des anciens coéquipiers de la légende, des champions du monde 86, contre les Cebollitas, les premiers partenaires du jeune Diego Argentino Juniors. Rudy et Oscar, 61 ans, ont joué avec lui tout petit.
Même s'il n'est plus là, Diego va toujours être dans nos cœurs. Aujourd'hui, on est venu lui rendre hommage. Personne ne voulait manquer ça.
C'est très émouvant pour nous. Ici, ce sont ses racines. Nous sommes ses vrais amis, ceux qui ont toujours été avec lui. La vie l'a mené vers d'autres endroits, mais peu importe. Nous, on se souvient de lui comme le gamin de 8 ans qui jouait avec nous.
Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
C'était bien entendu Les Innocents avec l'autre Finistère. Ça fait du bien des fois d'entendre des chansons qui datent d'une autre décennie. Hein. Il est 13h30, on fait une courte pause et on va revenir sur cette histoire incroyable de la petite Cléo Smith avec notre correspondant sur place à Perth, Nicolas Perpich, au micro de Jean-Noël Lucas. Mais c'est tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien, nous avons en ligne depuis Western Australia, depuis Perth, notre collègue Nicolas Perpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Jean-Noël.
Et la bonne nouvelle ce matin, la police de WA a retrouvé Cléo, âgée de 4 ans, 18 jours après sa disparition. Je crois que toute l'Australie est ravie de cette nouvelle.
C'est vraiment ça, c'est incroyable, la joie par tout le monde, par la police, par sa famille, évidemment, sa mère, Ellie Smith, son beau-père, Jake Glidden, toute la communauté de Carnarvon, d'où ils viennent, tout l'État de l'Australie-Occidentale, tout le pays est plein de joie parce que, ça faisait 18 jours, des gens commençaient à perdre de l'espoir, la police était très, très inquiète, les auditeurs vont se rappeler que Cléo Smith avait disparu il y a 18 jours donc d'un spot de camping au nord de Carnarvon qui s'appelle Blowholes. Elle était dans sa tente le soir, ils se sont réveillés les parents le lendemain à 6h30, elle n'était plus là, ni son sac de couchage et la tente a été ouverte. Alors la police avait cherché partout autour des Blowholes pendant des jours et des jours. Il y avait une équipe de plus de 100 officiers de police qui avaient cherché. Il y avait, semblerait-il, pas beaucoup de choses positives. On savait qu'il y avait une voiture qui avait quitté l'endroit vers 3h, 3h30 du matin. La police cherchait cette voiture, ils cherchaient le conducteur. Ils essayaient de retrouver tout le monde qui était à ce camping pendant ces périodes-là. Et là, vers 4h du matin, donc l'annonce qu'en fait, Cléo avait été retrouvée. Donc, une nouvelle vraiment étonnante, Jean-Noël.
Oui, absolument. Et je crois que vous connaissez un petit peu l'endroit. Carnarvon, c'est un petit village de 5000 habitants. Et vous, vous connaissez l'endroit pour peut-être y avoir passé
oui.
Dans les parages.
Oui, je connais assez bien l'endroit. Bon, Blowholes, donc Carnarvon, c'est à peu près 1000 km au nord, un peu moins, de Perth, et Blowholes encore 45 minutes au nord de Carnarvon. Et l'endroit où on va faire du camping, c'est au bord de la mer. La mer est très belle. Là, on peut nager juste au Blowholes. On peut plonger, pêcher. Le beau-père Jake Glidden, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la pêche. Alors, la famille était allée là-bas pour du repos, pour pêcher, pour nager, etc. Donc, là, ce qui s'est passé, ce qu'on sait, c'est que la police qui avait cherché partout, la maison de la famille, les cendres du camping, les poubelles, etc. Et on a, la police dit qu'ils ont trouvé quelque chose, un morceau d'information, on ne sait pas encore ce que c'était, qui ont mené à une maison à Carnarvon. Et cette maison, elle est à moins de 6 minutes de conduite de la maison de la famille. Et là, à 1h du matin, donc, ils ont forcé la porte, ils sont entrés, c'était fermé à clé, et dans une chambre, voilà, il y avait une petite fille, et un officier de police l'a pris dans ses bras et lui a demandé « Comment tu t'appelles ?» Elle a dit « Je m'appelle Cléo ». Alors, un moment étonnant, la police, ils ont ça en vidéo, parce qu'il y a des body-worn cameras, donc on va pouvoir voir ce moment, très émotionnel, et apparemment la police était en larmes avec émotion. Évidemment, c'est, Je crois que le pays entier était pleuré parce que c'est incroyable. Et voilà, donc il a dit mon nom, my name is Cleo. Et vraiment, elle a été bien sûr immédiatement amenée à sa mère, à son beau-père, qui ont dû être fous de joie. Et sa mère, Ellie Smith, elle a mis un message sur Instagram. Elle a dit my family is whole again. Et donc là, ils ont arrêté un homme de Carnarvon, qui n'était pas à la maison quand la police est entrée. Ils l'ont arrêté après. Il a 36 ans. Ils disent qu'il n'a aucun lien avec la famille. Là, actuellement, pendant qu'on se parle, il n'a pas encore été inculpé. On verra ce qui se passe là. C'est sûr que c'est un énorme soulagement. Et puis, il faut aussi noter le travail de la police. Le chef de police ici, Chris Dawson, qui dit que c'est un des meilleurs moments dans l'histoire de la police de l'Australie-Occidentale. Lui aussi, il était émotionnel quand il parlait. Il dit qu'on lui avait... il savait ce qui se passait. Il savait que la police allait à cette maison. Et puis après ça, il a appris que Cleo avait été libérée. Donc... voilà, la suite à voir. On espère qu'elle est en bonne santé. Il a dit qu'elle avait l'air sain et sauf, qu'elle souriait. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et il y a le premier de Western Australia, Mark McGowan, qui a remercié la police. Il a remercié le chef de cette équipe, Superintendent Rod Wild, mais aussi tous les volontaires du SES, les volontaires de la communauté, parce que tout autour de la communauté, tout autour de l'Australie-Occidentale, même ailleurs, dans d'autres États, des gens, ils avaient mis des autocollants sur leur voiture, help us find Cleo, il y avait des affiches partout. C'était un effort énorme par la communauté de Carnarvon et ailleurs, des volontaires qui avaient aidé dans la recherche, pour la chercher. Il y avait ici à Perth une énorme équipe, il y avait des analystes qui regardaient l'information qui revenait du blowhole. Vraiment des nouvelles formidables.
Absolument. Comme on dit en bon français, good work, WA Police. Merci, Nicolas, pour cette analyse.
Merci, Jean-Noël.
Vous êtes avec Radio SBS en français. Écoutez et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
C'était la femme de l'année, chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour le mois d'octobre. Sélection que vous pouvez retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. 13h40, on fait une courte pause et puis on va parler des tests Covid en France et de l'empreinte carbone du bœuf consommé à travers le monde. Tout de suite après ça. Allez, séquence reportage maintenant et on va parler du Covid-19 en France et surtout de la fin de la gratuité des tests dits de confort, une mesure qui a été rendue payante depuis le 15 octobre dernier et qui concerne les adultes qui ne sont pas complètement vaccinés et sans prescription médicale. Seule l'obtention du pass sanitaire motive certains à se faire vacciner, mais d'autres n'hésitent pas à tricher pour avoir le fameux sésame. Aram Bengue.
L'objectif visé par les autorités sanitaires n'est pas sûr d'être atteint. Selon un sondage BVA, c'est 8% des réticents au vaccin anti-Covid ont l'intention de se faire vacciner pour avoir un pass sanitaire. Du coup, dans ce centre de vaccination de la mairie de Clamart, près de Paris, les premières doses n'ont pas vraiment explosé depuis la fin des tests gratuits. Le médecin généraliste Jean-Paul Hamon y vaccine une fois par semaine en dehors de son cabinet.
On n'a pas remarqué une grosse affluence. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une seule première dose. Et sur 12 doses que j'avais faites à mon cabinet, je n'ai eu qu'une seule première dose.
Pas de répercussions donc sur les premières doses de vaccins anti-Covid-19. Mais pour ce qui est des tests antigéniques effectués en pharmacie, leur nombre a chuté de moitié depuis le 15 octobre. Quant aux tests PCR, ils ont légèrement baissé dans ce laboratoire d'analyse médicale en région parisienne. Thierry Leclerc en est le biologiste.
On a vu une très légère baisse des demandes PCR de l'ordre l'ordre de 5%. Et les gens qui acceptent de payer finalement 44 euros, ça représente entre 5 et 10% de la totalité des tests PCR que nous réalisons.
Et ces quelques PCR payants sont effectués par des touristes ou des Français qui voyagent ou pour des raisons professionnelles. Selon le sondage BVA, 15% des non-vaccinés ne vont plus se faire tester. Et pour le pass sanitaire, certains n'hésitent pas à tricher, comme l'indique cette jeune fille de 18 ans, complètement vaccinée, mais pas tous ses amis.
Certains de mes amis ont des stratégies, c'est-à-dire demander le pass de personnes vaccinées. Donc oui, ils utilisent le QR code d'autres personnes pour pouvoir rentrer dans certains endroits, puisque la carte d'identité n'est pas forcément montrée. Donc ils peuvent se faire passer pour une personne vaccinée, sans être vaccinée du coup.
Et justement, pour le docteur Jean-Paul Hamon, cette situation pose problème.
Ça pose le problème du dépistage. C'était une mesure qui était nécessaire pour que les gens se vaccinent davantage. Mais il est clair que ça va être une arme à double tranchant parce que il y a plusieurs personnes qui ne se feront pas tester. Et c'est le risque justement de passer à côté de gens positifs qui pourraient transmettre la maladie.
Depuis qu'ils sont devenus payants, le nombre des tests de dépistage du Covid-19 est passé sous la barre des 3 millions par semaine. Et cette baisse concerne surtout les jeunes adultes qui effectuaient régulièrement des tests antigéniques pour disposer d'un pass sanitaire pendant les week-ends.
Et direction maintenant le secteur agricole qui représente à lui-même 19% des émissions de gaz à effet de serre. C'est le chiffre pour l'année 2019, le deuxième poste d'émission au niveau national en France. Et bien, des projets sont à l'étude et sont développés pour réduire cet impact. Plusieurs d'entre eux ont été présentés au sommet de l'élevage qui s'est tenu près de Clermont-Ferrand. Les résultats du programme Life Beef Carbon pour réduire l'empreinte carbone de la viande bovine y sont par exemple exposé.
Il en reste 4 pour la désignation de la grande championne mamelle.
Pendant que vaches et taureaux de race laitière ou à viande concourent, l'Institut de l'élevage présente ses travaux pour améliorer d'autres performances, réduire de 15% l'empreinte carbone de la viande de bœuf en 10 ans. Plusieurs leviers d'action ont été identifiés, accroître l'autonomie alimentaire par exemple. Guillaume Gauthier, référent environnement à l'Interbev, va apporter des modifications à son exploitation.
Je vais essayer de mettre plus de cultures de l'herbe en fait, des choses qui méritent un petit peu moins d'intrants et surtout qui va m'économiser des achats d'aliments extérieurs, du tourteau. On a des années un petit peu compliquées pour produire de l'aliment l'été, donc la culture de l'herbe va me permettre de la produire plus tôt dans l'année. Mettre de la prairie dans les rotations, c'est aussi un impact sur le captage du carbone qui est assez important.
Autre objectif, améliorer l'efficience, réduire la mortalité des veaux et avancer l'âge de la première mise bas, par exemple. Sur ce point, l'éleveur de Charolaise ne changera sa méthode que pour une petite partie du cheptel.
Je veux vraiment que mes animaux suivent une croissance normale. Je suis très prudent par rapport à ça, mais malgré tout, oui, il y a des efforts à faire. Les animaux qui pâtureront moins longtemps parce qu'ils font des vélages plus tôt, et c'est des rejets en moins.
Il est possible d'aller encore plus loin, explique Jocelyn Endurant de l'Institut de l'élevage. D'autres leviers d'action sont étudiés.
Comme la génétique des troupeaux, pouvoir sélectionner des vaches peut-être plus petites, peut-être plus précoces, peut-être qui valorisent mieux l'herbe. On a aussi des possibilités d'adapter la ration, ce qu'ils mangent, pour peut-être qu'il y ait un petit peu moins de fermentation entérique et d'émissions de méthane.
L'Institut assure qu'une meilleure performance environnementale s'accompagne d'une meilleure performance économique. Certains agriculteurs pourront à terme rentabiliser davantage leurs efforts grâce à un autre programme, la vente de crédits carbone. Jean-Baptiste Dollet, responsable environnement de l'Institut de l'élevage.
Sur le premier appel à projet qui représente 137 000 tonnes, 25% ont été vendus. L'objectif de France Carbone Agri Association est de vendre ce carbone à 38 euros la tonne.
Les crédits portent sur les réductions d'émissions et non sur les performances en tant que telles.
Ceux qui ont déjà un niveau de performance élevé seront moins rémunérés, effectivement. Alors après, c'est là toute la question autour du label bas carbone, de rémunérer aussi les bonnes pratiques qui ont déjà été mises en œuvre.
Pour remplir les objectifs, il faudra l'implication des éleveurs. Sous la tente qui abrite les bovins à viande, plusieurs d'entre eux restent perplexes.
Je vois pas ce que c'est. Donc.
Alors je sais pas, je pense que tout ça c'est encore de la vaste fumisterie.
On a un système 100% herbagé. Je pense qu'on est plutôt à en absorber qu'à en émettre.
Un programme européen pour une démarche bas carbone dans la filière ovine a également été lancé.
Voilà pour cette séquence reportage pour aujourd'hui. C'était la voix de Gaëtan Roussel, vous l'aurez sûrement reconnu. Cette chanson, Je me jette à ton cou, 13h49, courte pause. C'est jeudi, on va parler d'économie, tout de suite après ça.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Oui, bonjour Jean-Noël.
Et la Banque centrale a décidé de continuer à prendre des mesures pour stimuler l'économie, mais pas autant qu'avant.
Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est des mesures que la Banque centrale avait prises après le début de la pandémie. Donc, la Banque a eu un meeting cette semaine et ils ont décidé qu'ils vont continuer à acheter 4 milliards de dettes du gouvernement chaque semaine, au moins jusqu'au mois de février, à peu près mi-février au moins. Mais ils vont arrêter ce qui s'appelle yield curve control. Et bon, c'est vrai que moi, ça ne me dit pas grand-chose, yield curve control, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la Banque centrale qui achète des obligations du gouvernement, des obligations qui durent trois ans et qui finissent en 2024. Et ça, c'est pour stimuler l'économie aussi, mais c'était quelque chose qu'ils avaient commencé après la pandémie, mais la Banque centrale a décidé que non, ils vont arrêter d'acheter ces obligations maintenant. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a certaines personnes qui disent que c'est une... Ils pourraient interpréter ça pour dire que la banque va peut-être devoir hausser le taux d'intérêt plus tôt que prévu. C'est vrai que cette fois, à ce meeting-là, ils ont gardé le taux d'intérêt à 0,1%. C'est le 12e mois de suite qu'ils ont fait ça. Mais peut-être ces décisions-là, c'est que en fait, la banque pourrait faire monter le taux d'intérêt aussitôt que 2022. Ça, c'est pas sûr, mais c'est un peu comment ça a été interprété par le marché et par des économistes comme Shane Oliver de AMP Capital et d'autres de la Commonwealth Bank qui disent que ça pourrait être aussi vite que novembre 2022. Donc, encore un an entier avec des taux d'intérêt très, très bas comme ça, mais que ça pourrait monter quand même plus tôt que prévu, parce que l'économie australienne commence à rebondir mieux que prévu aussi. Donc ça, c'est très bien. On a vu que la semaine dernière, le taux d'inflation était à 2,1%, ce qui était aussi une bonne nouvelle. Et c'est peut-être quelque chose qui a mené à ces décisions par la Banque centrale d'avoir moins de mesures pour stimuler l'économie. Voilà où on en est un peu maintenant, où on peut dire que peut-être que maintenant, finalement, on s'en sort de cette crise économique qu'on a vue avec la pandémie à cause de Covid-19. Bon, on espère en tous les cas.
Des compagnies ont été payées quelque chose comme 38 milliards de dollars en paiement de JobKeeper pendant la pandémie, malgré ne pas avoir souffert une chute assez grave dans leurs chiffres d'affaires.
Oui, c'est ça. En fait, tout ça, ça a été découvert après une nouvelle analyse par ce qui s'appelle le Parliamentary Budget Office. Et en fait, ils ont trouvé que les chiffres d'affaires de ces compagnies, de ces business, n'avaient pas baissé en dessous d'un seuil minimum où ils auraient pu recevoir JobKeeper. Mais ils ont reçu ces bénéfices de toutes les façons. Et en fait, 1,3 milliard de JobKeeper a été donné à des compagnies ou des business qui ont vu leur chiffre d'affaires tripler pendant la période où ils ont reçu cette aide financière. Et encore, la même somme a été reçue par des compagnies qui ont vu leur chiffre d'affaires doubler. Donc, au lieu de baisser, ça a doublé ou triplé. JobKeeper, c'était un énorme programme d'aide fiscale, en fait le plus grand dans l'histoire de l'Australie. Et ça a coûté en tout 89 milliards de dollars avant que ça finisse un peu plus tôt cette année-là. Mais c'était censé être seulement pour des compagnies qui avaient souffert vraiment très fortement pendant la pandémie et que leur chiffre d'affaires avait baissé par plus de 30% et 50% pour les grandes compagnies. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les règles ont été changées rapidement pour le gouvernement. Et on a vu que le gouvernement a dit qu'en fait, les employeurs avaient juste besoin de donner une estimation, d'estimer par combien de pourcentage leur business allait rétrécir, allait tomber. Et on voit qu'en fait, ce n'était pas vraiment le cas. Alors, selon le Parti travailliste, ce programme de JobKeeper était une très bonne idée, mais en fait, c'était très, très mal géré par le gouvernement et un énorme gâche d'argent. Mais bon, par contre, c'est peut-être pas surprenant de voir que le trésorier George Frydenberg, lui, il a dit que selon une analyse par son département, les business qui ont reçu JobKeeper avaient en fait très fortement été frappés par la pandémie et avaient vraiment besoin de cette aide financière. Et c'est sûr que ça a aidé beaucoup de personnes, ça a sauvé beaucoup de business et le gagne-pain pour plusieurs millions d'Australiens.
Merci Nicolas pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
C'est L'amour, ça nous travaille de Didier Sustrac, chanson qui fait partie de notre sélection musicale encore une fois pour le mois d'octobre. 13h58, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui. Et dans l'actualité donc de ce 4 novembre, le torchon brûle encore un peu plus entre l'Australie et la France sur fond de polémiques et d'échanges de mots cinglants entre les deux pays. La petite Cléo qui a été retrouvée saine et sauve hier, non loin de son domicile, 18 jours après sa disparition. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une très belle analyse de notre correspondant à Perth que vous pouvez retrouver sur notre site internet sbs.com.au/french. Voilà, on arrive à la fin de notre programme pour aujourd'hui. Je vous rappelle quelques adresses utiles. Je viens de vous le donner, notre adresse de site internet sbs.com.au/french. Nous sommes également sur Facebook, facebook.com/sbsfrench, et sur Twitter où nous sommes @sbsfrench. Une minute pour vous souhaiter un bon après-midi à tous, un bon appétit si vous êtes toujours à table. Prochain rendez-vous avec le français, c'est avec moi-même samedi à 13h et dimanche avec Jean-Noël à 13h également. Bon après-midi à tous.
Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.